Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde. Mère ordinaire.
En reprise.
Bonjour tout le monde. Bien qu'à l'on prie de retour hein, à Mère ordinaire à Cube, c'est le fun. Mais il pleut, mais je suis quand même contente de venir ici parce que je suis loin de ma famille. C'est-à-dire que j'étais contente de hier, j'étais pas ici, c'était Anaïs qui était là. Et aujourd'hui, je viens après un long week-end. J'avais aussi mardi parce que hier, je travaillais sur autre chose. Et ben, je suis super contente d'être là. Et en plus, spécialement ce matin, on parle de quelque chose que je ne fais pas, que je n'ai jamais fait de ma vie, mais que ça m'intéresse entre autres parce que j'ai jamais fait, puis je suis attirée vers l'eau, mais écoute, c'est tellement dans un autre monde pour moi. Je suis avec Valentine Thomas. Valentine, moi je te connaissais pas. T'es une chasseuse au harpon, c'est comme ça qu'on dit ça, ou on dit chasseure?
Une chasseuse sous-marine.
Une chasseuse sous-marine. Mais tu sais, tu pognes pas ça que tu au harpon, c'est ça?
Non, c'est pas un gros harpon comme quand on s'imagine à la pêche à la baleine. Là. C'est un fusil avec un
mécanisme. C'est ça, un fusil, mais c'est comment? Comment
un
appelle
bâton
ça?
Avec un élastique.
C'est pas un harpon?
C'est pas un harpon, non.
Ah non, on appelle ça un comment?
Un fusil de chasse sous-marine. Ou
Et moi, mettons qu'on me dit, je te connaissais pas avant que tu sortes ton livre, parce que là, tu as fait une tournée de médias, et c'est pas comme ça que j'imaginais une chasseuse sous-marine. Est-ce qu'on te le dit souvent, ça? Là, je t'ai ajouté sur Instagram, je suis allée voir tes photos, et moi, quand on parle de... Tu sais, qu'on parle, en fait, d'une chasseuse, peu importe où, là, au chevreuil, orignal, sous-marine, j'imagine ça un peu plus rough, un peu moins cute, mettons. Ça se peut-tu?
Ben, c'est sûr que quand je vais dans un bar, puis que je rencontre quelqu'un, puis qu'il me dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis je fais de la chasse sous-marine, c'est rare que je reçois un « ah ouais, je le savais. »
Ah, je le savais.
T'avais l'air de ça.
C'est sûr que non. Et toi, tu sais, j'ai suivi un peu ton histoire. T'es une fille qui étudie en droit, puis que pas du jour au lendemain, mais presque, décidé de tout lâcher, puis de faire autre chose.
Ouais, en fait, j'ai fait mon droit à Montréal.
Ouais.
Après ça, j'ai habité à Londres, où j'ai travaillé en finance pendant près de 6 ans.
OK.
Et puis, j'ai déménagé à Londres en 2010. En 2011, j'ai été un peu initiée à ce sport-là dont je connaissais absolument rien. J'en avais jamais entendu
zéro,
parler.
Zéro, là. T'as pas des amis. C'est pas fake, là. C'est que t'as jamais entendu parler de ça.
Je nageais même pas, là.
OK, c'est bon.
Et puis, j'ai été initiée un peu par ça, mais j'ai toujours aimé la bouffe.
OK.
Donc, la première fois où j'ai attrapé un poisson, j'ai fait comme, OK, wow, c'est vraiment le fun.
On peut le manger?
Exact. Donc, évidemment, j'ai aucune attirance pour le geste de tuer quelque chose. C'est vraiment pas ça qui m'allume. Mais le fait d'attraper sa propre nourriture, le fait que ce soit sélectif, t'as pas de prise accidentelle, tu choisis exactement ce que tu veux, tu respectes les saisons de reproduction. C'est vraiment super sélectif et c'est super durable.
OK. Mais à ta minute, tu sais, si t'aimes tu tripes pas sur le geste de tuer, tu peux partir aussi un potager et devenir végétarienne.
Aussi, mais j'ai choisi de pas manger.
OK, mais t'étais pas végétarienne, rien. Tu chassais pas avant.
Non.
T'as jamais chassé, je sais pas, le lapin, le lièvre.
J'allais une fois à la chasse au chevreuil.
That's it.
Puis j'ai broyé comme un veau, puis je suis plus jamais allée.
C'est fini. Mais les poissons, ça te fait pas broyer?
Non.
Pourquoi? Il y a une différence.
Je pense qu'on a on a une relation différente avec les poissons parce que...
On a moins l'impression que c'est des animaux cute, c'est ça?
Je pense que d'un, c'est moins cute. Et puis de deux, on a on est habitué de les voir entiers. Tu sais, on se les fait servir entiers depuis qu'on est petit.
Ouais.
Donc, on a un lien déjà
ouais,
un peu plus...
Ouais, c'est pas comme un cochon, on se le fait pas, ou une vache, on se fait jamais servir au con.
C'est pour ça que moi, j'ai toujours mangé de la viande. Fait quand j'étais allée faire de la chasse sur terre, j'ai attrapé mon chevreuil, dans ma tête, je suis comme, j'ai tué Bambi! Puis ouais. J'étais vraiment pas bien, là. Puis après ça, quand ils l'ont découpé en morceaux, puis là, ça ressemblait à des morceaux de viande. Tout d'un coup, j'avais faim.
OK.
Là, je suis comme, OK, c'est un peu hypocrite, mon affaire, finalement. Là.
Mais ça, c'est vraiment... Écoute, moi, je suis typique comme toi. Là. Moi, j'aime pas les poissons entiers. T'sais. J'aime pas ça voir ça à l'épicerie. J'ai un malaise. J'aime pas voir le homard au complet, le crabe des neiges. Ça me rend mal, tu sais. Mais j'y mange très bien. Hein.
Il y a beaucoup de monde que s'il fallait qu'ils attrapent leur propre nourriture, on aurait plus de végétariens.
je pense que je mangerais du tofu, tu sais. Et non, mais c'est quand même intéressant, ça, parce que c'est comme un peu... c'est pas hypocrite, mais... sais, si on voit, si je vois un documentaire d'abattoir, là, ça me tente pas d'aller travailler là, ça me tente pas de tuer moi-même ma viande, mais j'en mange, tu sais.
Mais c'est le problème que ça crée, en fait, c'est que ça crée une déconnexion qui est tellement grande que quand on achète quelque chose à l'épicerie, on oublie que c'est quelque chose de vivant, donc on oublie de faire des bonnes décisions.
Genre
qu'on se dit, OK, je vais prendre le
un filet mignon, mettons, là.
Je vais prendre un filet mignon, je vais prendre un poulet à 4$, qui, tu sais, ce poulet-là, ben, si toi, tu payes pas cher.
Ah, c'est que je vois pas derrière qu'est-ce
exactement.
Je vais pas la voir comment la poule, elle a été traitée.
Pour toi, c'était pas une petite poule toute cute, c'était un poulet rôti, emballé.
En spécial,
exactement. Ouais. Mais si c'est pas cher, c'est parce qu'il a été maltraité, parce qu'il a été servi de la bouffe poche, parce que ça a été... Donc, c'est tout ça. Puis vu qu'on est tellement déconnecté au fait que c'était des organismes vivants avant, mais on pense pas.
C'est vrai, t'as raison. Non, t'as raison.
On est juste déconnecté. Donc, quand j'ai commencé à pêcher, puis que là, mon poisson, je voyais d'où il venait, je le voyais dans son habitat naturel. Maintenant, je n'achète plus de poisson à l'épicerie. Puis deuxièmement...
Mais attends, mais le poisson que t'achètes à l'épicerie, c'est quand même un poisson.
C'est quand même un poisson.
Mais c'est de la façon qui est pêché.
Il faut faire attention à la manière qui est pêché. Le gros problème avec les fruits de mer aussi, c'est qu'il est très souvent mal étiqueté.
Ouais.
Aussi, il a été mal pêché. Ça détruit
essayez
les océans,
de savoir d'où vient ton poisson ou tes crevettes. Là.
Ben déjà, le gouvernement du Canada ne nous aide pas parce que c'est pas légal, c'est pas obligatoire par la loi d'indiquer comment le poisson a été pêché et d'où il vient.
Mais l'autre fois, je regardais des crevettes, je me disais, on en a des crevettes, tu sais, pas trop loin. Je pourrais acheter des crevettes, j'essaie d'acheter local. Je regardais mes sacs de crevettes.
Chine, Thaïlande, Philippines.
Il n'y a rien qui venait à moins de 15 heures d'avion en avion, là, t'imagines?
Ben déjà, nos fruits de mer sont vendus aux États-Unis, puis les Américains nous le revendent.
C'est ça.
Même si du poisson québécois, les chances que ce soit les Américains qui nous l'ont vendu sont
très élevées.
Fait
que ça, c'est difficile, mais tu sais, pour nous autres, comme le client, c'est difficile quand même.
C'est
de
très
savoir.
Difficile. C'est
toi,
système,
tu sais, là.
C'est complexe, là.
C'est vraiment complexe, mais ça nous aide pas. Des
aide
fois,
pas
on peut aider avec le porc du Québec. Bon, je mange pas de porc, là, mais c'est plus facile. Mais même ton bœuf haché, c'est difficile de savoir ta vache, elle vient d'où, tu sais.
Exact.
Puis comment elle vit, dans quelles conditions, j'ai aucune idée. Je prends ma viande hachée, puis je m'en vais chez nous. Puis...
Ben, tu vois, il y a des espèces, ça peut sonner un peu bizarre, mais tu vois, la pieuvre, j'en mange plus.
Pourquoi? Ça, c'est intéressant parce que moi, j'aime ça, la pieuvre.
Ben, j'ai attrapé une pieuvre, puis le côté. Il y a eu une espèce de. Ça sonne tellement bizarre, mais il y a une espèce de genre de connexion étrange qui a fait que ça m'a enlevé le goût de le manger. Ils sont tellement intelligents, puis ça avait.
C'est pas comme un animal régulier, c'est ça? C'est pas comme un poisson, c'est pas comme un mollusque.
Non, c'est pas comme un poisson, ça a une extrême intelligence, tout comme le porc d'ailleurs. Mais bon, je mange encore du bacon, ça, j'y travaille, là.
Mais tu sais qu'en fond, du fake.
mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand t'es vraiment à la source, tu vois les choses de manière différente.
Mais quand tu connais l'animal aussi.
Puis ça te fait prendre des décisions différentes.
Tu sais, si t'as jamais été en contact avec des vaches ou t'as jamais été dans une ferme, peut-être que ça te dérange pas de manger du bœuf. Mais toi, par exemple, la pieuvre, c'est un exemple.
Exactement.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu commences, t'essayes pour la première fois d'aller en plongée, tout ça. Et là, mais tu sais, il y a une différence entre être initié au sport, puis de lâcher tout ce que tu faisais avant, puis faire ça plein temps. Tu sais, c'est comment ça se passe. Premièrement, là, financièrement, tu peux pas... Il faut que tu sois riche pour faire ce genre de décision-là.
Non. En fait, je suis partie, j'avais 2000 piastres dans mon compte de banque.
Okay.
Mais
là, t'avais pas une job à 15 000 à Londres, là.
Non, j'avais une bonne job. Mais Londres, tu sais, c'est la vie est tellement chère que des économies, c'est un peu difficile à faire, là.
C'est ça, mais tu lâchais quand même une bonne job, là. Tu lâchais pas une job au salaire minimum.
Non, du
c'est
tout.
Ça.
Mais je me suis dit, OK... À quoi j'ai pris la décision qu'au lieu de travailler toute l'année pour un job que j'aimais pas, pour faire deux fois par année ce que j'aimais, deux semaines par année ce que j'aimais, j'allais essayer de faire moins d'argent, mais de faire ce que j'aimais à longueur d'année.
OK.
Fait que là, j'ai fait comme, j'ai vraiment pas pensé à mon affaire.
OK, mais là, ça aide, hein, ça? Ça aide de décider un coup de tête. Parce que si tu y penses trop longtemps, tu seras encore là-bas sur ton bureau.
Exactement, j'aurais vraiment pas trouvé que c'était une bonne idée, tu sais. Puis je sais pas, là, j'étais engagée pour faire un documentaire en Afrique du Sud. J'étais payé genre des peanuts, là. J'étais payé genre 200-300 piastres.
OK. Mais t'étais allé pareil.
J'étais allé pareil. Puis là, je suis revenue et j'ai fait comme, je peux être payé pour faire des affaires le fun dans la vie.
Ouais.
Je suis comme,
C'est quand même nouveau parce que t'es assis dans un bureau, là, tu sais.
C'est ça, exact. Fait que là, j'ai passé l'été à Zanzibar. J'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour décider qu'est-ce que j'allais faire.
Ouais.
Puis j'ai fait comme, OK, that's it.
Let's go, on se lance.
Je vais en ligne, là.
Et là, comment on fait pour vivre? Là, il y a un livre, tu sais, mais avant, comment tu fais pour vivre de ça? Tu sais, comme mettons, moi, je suis de l'extérieur, je connais rien à ce sport-là. Je vois pas comment on peut gagner sa vie comme ça.
Ça m'a pris du temps. Tu sais, c'est l'entrepreneuriat. C'est une job à temps plein. Je passe énormément d'heures en arrière de mon ordi. C'est sûr que quand tu regardes...
Qu'est-ce qui te fait vivre, les médias sociaux?
Les médias sociaux, des commandites, ouais. J'ai des contrats de conférence un peu partout. Okay. J'ai un livre, je travaille sur des projets de télé un peu partout.
Okay.
J'ai beaucoup de choses, en fait.
Donc, c'est plein de petites choses ensemble, exact, qui permettent de bien,
exact,
vivre.
Exact. J'ai bâti une compagnie qui m'a pris... Mes deux premières années ont été vraiment... Là, je bouffais du crabe de nez puis du poisson puis rien d'autre.
Oui. Ouais, au moins, tu savais du poisson.
Ah, c'est ça. Moi, j'avais du poisson, tu sais. C'est pas comme le...
Oui, c'est ça.
Pas comme le menu à cuillère avec les saucisses.
Au moins, tu sais, ça m'a crabe de nez au poisson.
Et puis... après ça, on est allé. Après ça, ben là, j'ai commencé à travailler de plus en plus fort, à trouver de plus en plus de contrats.
Quand tu dis on, t'étais-tu tout seul ou
t'es seul? Ouais, on se pense, c'est moi.
On sait toi, finalement. Okay. Non, mais je me suis
dit, moi, première et troisième personne.
Peut-être que t'avais un chum, peut-être que t'avais quelqu'un qui était avec toi, qui t'aidait dans tout ça.
Non, j'ai fait ça tout seul. Bon, mes parents étaient pas très supportifs de supporteurs de
ben, tout je comprends, tu sais, j'imagine ton enfant du jour au lendemain, il décide qu'il lâche tout. Puis.
Ben, c'est ça, tu sais. Je l'emmène dans mon auto, je l'emmène dans des garages, je l'emmène sur des sofas, puis je travaillais le plus que je pouvais. C'était vraiment...
Mais ça a porté fruit, parce que ça marche, là.
Ça m'a pris un bon 2 ans et demi, mais là, ça commence à marcher, puis là, je suis vraiment contente.
Puis là, t'es installée ici, au Québec?
Je suis plus ou moins à Montréal, ouais.
OK, mais t'es installée ici. Tu vis ici.
Ouais, je suis
t'es
en Montréal.
Au Québec.
Ouais. Je suis en Montréal, la Floride, puis Hawaï jusqu'au mois d'août.
OK. Et là, le livre... Moi, tu sais, je pensais que c'était un livre qui racontait seulement... Mais pas seulement, c'est quand même ton histoire, OK, de chasseuse dans l'eau sous-marine. Mais il y a aussi plein de recettes. Puis moi, tu sais, c'est un mélange des deux. C'est cool parce que en plus d'apprendre de où vient le poisson, c'est quoi tes histoires à toi, des magnifiques photos quand même, il y a aussi plein de recettes. C'est des recettes...
Ouais.
Toi, tu tripes ça à bouffe?
Ah ben, je suis foodie excellente, puis c'est comme c'est ma plus grande passion, c'est vraiment
là,
ce qui me drive dans la vie.
Tu pêches le poisson et en plus tu sais comment l'apprêter.
Ah, de la seconde j'ai des mains dans l'eau, j'étais en train de réfléchir à comment je vais le faire.
Comment tu vas le faire? Et là-dedans, on peut savoir toutes les façons d'apprêter le poisson, et c'est même pas des recettes difficiles. Là.
Non, il y a plusieurs. Le livre a plusieurs parties. Ouais. Bon, la première, ça explique un peu l'histoire derrière, puis donc si t'es chez vous puis tu te dis jamais je pourrais faire ça, ben tu vas, si tu lis le livre, tu vas voir que probablement que oui.
Je trouve que c'est pas juste je pourrais jamais faire ça, la chasse sous-marine, mais il y a aussi peut-être de moi aussi partir avec mes rêves à moi, tu sais.
Mais tu sais,
ça se transmet à n'importe, on peut changer ça pour n'importe quel rêve.
Non,
le fond,
définitivement, puis c'est vraiment destiné à des gens qui ont goût d'autres choses, qui ont goût de plus, qui sont pas contents dans leur vie, qui sont pas satisfaits de ce qui se passe puis de leur job, puis oui, c'est sûr, c'est difficile quand t'as des enfants puis tout ça, mais c'est
ouais, mais on a quand même juste une vie là.
T'as des moyens de te rendre heureux, tu sais, puis moi j'ai vraiment commencé crise de panique, avoir peur de l'eau, pas capable de sortir de chez nous, traumatisée par les océans, puis
ah, aujourd'hui tu connais avec ça, puis tu t'amuses là-dedans.
Vraiment partie du plus bas du plus bas là.
Et moi c'est vraiment ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'on pourrait changer la chasse sous-marine par n'importe quoi. Quelqu'un qui tripe sur le tricot, qui a le goût de se partir une business de cupcake, qui a le goût de partir dans l'escalade, c'est vraiment on se rend compte que c'est possible. Et les recettes là-dedans, c'est toi qui les as inventées?
Ouais, les recettes c'est pas juste du poisson, il y a un peu de viande aussi, il y a un peu de tout en fait. C'est je mise beaucoup sur la simplicité, donc les recettes ont presque tout en bas de 8 ingrédients.
Ouais.
C'est des ingrédients faciles, c'est des ingrédients qui sont naturels, c'est très dans la simplicité, dans le partage, dans vraiment, c'est de la bouffe à la bonne franquette qui se mange souvent là avec les doigts. C'est,
ouais.
J'ai une recette où de crevettes, où c'est une canette de bière que tu bois, que tu coupes en deux, tu mets du beurre dedans, puis tu la mets directement sur la grille, puis tu trempes tes crevettes
autour du feu. Tout ce que là, tu le fais?
Ouais,
tout ce qui est, et non, mais c'est vrai que c'est simple parce que moi j'aime le poisson, mais j'aime quand il est pas rempli de, tu sais, il y a pas plein de trucs dessus quand ça goûte le poisson, et
ben,
j'ai
c'est
l'impression
ça.
Que c'est ça.
Le monde me demande c'est quoi ta meilleure recette de poisson? Je dis l'huile d'olive, citron.
Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est vrai, t'as raison. Et qu'est-ce qui s'en vient dans tes projets? Tu sais, là, comme là, il y a le livre, mais là, après ça, où on va pouvoir te voir? Mettons qu'on veut suivre.
Là, on est à l'étape des échantillons, mais ma sœur qui vient de finir, il y a 2 ans en mode à Londres.
Oui.
À l'université, on commence une marque de ligne de maillot qui est recyclée.
Ah, c'est très cool.
Direct au Québec. Donc, on va avoir des vêtements pour la plage et puis des maillots de bain.
Ici au Québec?
Ici au Québec.
Parce que j'imagine que la pollution, c'est un enjeu qui vient te chercher aussi. T'es dans l'eau, tu t'en rends compte, toi, t'es dedans, là.
C'est pas juste des vidéos Facebook que je vois de
non, parce que nous, là, juste te dire que nous, moi, quand je suis chez nous à Rosemère le soir, là, je vois pas dans le... J'ai peu de chances de me rendre compte. Et même à mes enfants, c'est difficile de leur faire qu'ils se rendent compte de la pollution, de nos océans et tout ça. Mais toi, tu le vois, tu sais.
À tous les jours. Les ballons, c'est les pires. Achetez pas des ballons à vos enfants, s'il vous plaît.
Ah non, ça, tu t'en
les
vois?
Ballons, ça dure une journée, puis...
C'est fini, hein?
Puis on l'envoie à tous les jours.
Dans l'océan, toi,
c'est
tu t'en rends
incroyable.
Compte.
On en voit, ils flottent, sont à la surface, sont dans le fond de l'eau, ils sont partout.
C'est
les
des cochonneries que nous autres, on achète des à la plage.
C'est vraiment... Chaque fois que je vais à la pêche, à la fin de la journée, j'ai le wetsuit rempli de plastique que j'ai ramassé puis que j'ai. J'ai mis dans ma combinaison plongée. Là.
Et les maillots, c'est des maillots recyclés. Comment c'est?
En fait, ils prennent du plastique des océans.
Oui.
Après ça, ils font des particules de plastique. Après ça, ils font des fibres pour faire du lycra ou du nylon.
Et. On va pouvoir acheter ça ici au Québec.
Oui.
Ça va être toi la porte-parole, j'imagine?
Ouais.
Écoute, avec 200 000 abonnés sur Instagram, quand même, c'est big, hein? Est-ce que, entre autres, oui, c'est le sport, mais c'est aussi parce que t'es une belle fille. Moi, je suis allée voir sur ton Instagram des photos de toi en maillot. C'est sûr que tous les gars ont le goût de suivre ça. La chasse, c'est une chose, mais on n'est pas. Non, mais on n'est pas menti. On se raconte pas d'histoire. Je veux dire, ton Instagram, c'est magnifique, mais toi aussi, t'es belle. T'es en maillot, t'es là-dessus. C'est pas du tout l'image qu'on a d'une fille qui chasse. Là.
Mais le maillot de bain, c'est mon uniforme de travail.
C'est
là.
Ça.
C'est que, tu sais, je suis sur la plage en train de faire un feu, de faire griller un poisson. Je suis en maillot de bain. Fait que, oui, ça fait partie de ça. C'est sûr que les réseaux sociaux. En 2019,
c'est sur le beau, là.
Ça fait partie de toutes les plateformes de communication. Les compagnies commencent à s'en rendre compte. Donc, c'est ça. T'sais, tout est basé là-dessus, puis t'as pas le choix de travailler dessus, puis t'as pas le choix de promouvoir de cette façon-là.
Est-ce que tu penses que t'as
moi,
pas...
Moi, je suis une fille.
Ouais.
Je pense que mon maillot de bain, je le porte relativement bien.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça qui est ça. Mais tu sais aussi...
C'est une combinaison des deux.
Mais ça fait partie du message que je veux que je veux donner aussi, tu sais. C'est pas parce que tu te préoccupes de l'environnement qu'il faut que tu aies du poil en dessous des bras puis que tu n'as pas lavé les cheveux pendant 3 semaines puis que tu portes un poncho, tu sais.
Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est un peu le look grano que ce qu'on a dans nos têtes, ceux qui se préoccupent de l'environnement.
Exact.
Ce sont ceux qui sont en poncho.
Exact. Puis encore là, tu sais, si tu suis mon compte Instagram parce que tu veux voir des photos.
De filles en bikini, ben.
Des filles en bikini, ben, tant mieux pour toi, mais tu vas quand même avoir mes messages où je te dis d'arrêter d'utiliser tes maudits sacs de plastique.
Merci beaucoup, Valentine. On peut te suivre. C'est Valentine Thomas sur Instagram. Est-ce que tu es sur Facebook?
Oui, je suis sur Facebook. Ouais.
Donc, sur Facebook aussi. Et ton livre, Valentine Thomas à contre-courant, récit et recette d'une aventurière des mers, est disponible partout. Moi, je l'ai vu partout.
Oui, il est partout, je pense.
Merci. Il est dans plein de librairies. Je l'ai vu en fin de semaine. Merci beaucoup,
okay,
Valentine.
OK, super. Merci beaucoup. Jusqu'à 12.
Mère ordinaire. En reprise.
Et là, c'est le fun. Pour le jeudredi, non seulement on a un verre d'alcool, mais en plus, on a de la visite.
Oui!
Hey! Anne-Marie Duprat et, attention, Andréanne Martin. Alors, je me suis pas trompée, Andréanne Martin. Et en plus, on a Anne-Marie, Andréanne et on a aussi Guilly.
Oui, Guy. Son petit nom, c'est Guy, mais en fait, son nom complet, c'est Guilly. Guilly.
OK. Anne-Marie, t'es sexologue.
Non, je suis pas sexologue. Je suis quasi-sexologue.
Ça, c'est quand t'as fourré papa. Comment ça va? Je suis quasi-sexologue.
Je sais qu'il y a eu une erreur dans certains envois de dossiers de presse. En fait, j'ai étudié à l'UQAM en sexologie, mais il manque ma dernière session puis 1000 heures de bénévolat pour dire que je suis sexologue. Fait que non.
Dans notre livre à nous, là, t'es sexologue.
Je suis bien équipée pareil.
Si t'as fait, t'es bien équipée pareil. Et vous êtes venus ensemble, tu viens de sortir un livre.
Oui.
Et non seulement tu viens, mais... C'est là, tu arrives de là, tu es couché.
J'arrive de là, puis c'est un livre pour venir, justement.
Ah oui? T'es-tu couché? C'était hier?
Non, j'ai pas dormi. J'ai eu du fun avec Guy toute la nuit.
C'était Guilly toute la nuit.
J'ai passé la nuit avec Guy, puis mon livre, puis non, j'ai pas dormi.
Écoute, ton livre s'appelle « Orgasme à la carte ». C'est un livre dont vous êtes le héros de cul?
Ouais.
C'est ça?
Exactement.
Y a-t-il un
autre
mot?
Le nom, le premier titre, en fait, il devait s'appeler « Le livre dont vous êtes la salope ».
Ah!
Mais je voulais le justifier, le mot salope, parce qu'en tout cas, il y avait tout un discours en arrière de ça. Je voulais... En fait, c'est juste les gens qui nous traitent de salope, hein, alors qu'un Casanova fait la même chose, puis lui, c'est bien correct.
Ben oui, c'est correct, ça.
Ben c'est ça. Fait que je voulais parler de ça, entre autres, mais finalement, je me suis rendu compte que ça ferait dévier le discours, puis qu'on allait se faire poursuivre par les gens de les livres dont vous êtes le héros. Et donc, là, j'ai fait au secours, ça me prend un nouveau titre, et tiens-toi bien, c'est ma mère de 74 ans qui a dit « Orgasme à la carte », je vais te vendu.
Hey, c'est hot.
Es-tu hot, maman?
Très fort, orgasme. Hein? Moi, ça m'interpelle au bout.
Oui.
J'avoue que le salope, des fois, là, juste ça, là, ça peut voler la vedette sur le livre.
Ben,
là,
c'est
là,
ça.
On fait juste parler du titre versus orgasme à la carte, ça veut tout dire. Ça
nous... Ben, c'est ça. Pour moi,
ça crée moins la controverse.
Exactement. Puis moi, c'est important pour moi qu'on comprenne bien dans le titre le côté interactif du livre, que c'est pas un simple autre récit érotique comme il y en a déjà eu, puis qui sont certainement très bons. Mais moi, le côté interactif, pour moi, était bien important. Puis je pense qu'avec ce titre-là, on le comprend encore. Fait que c'est comme ça que ça s'appelait Orgasme à la carte.
J'aimerais ça voir.
Tu veux voir le...
Tu veux Guili?
J'aimerais ça avoir un orgasme, s'il vous plaît.
Guili! S'il te plaît, fais pas de bruit. Guili, c'est quoi exactement?
Mais en fait, Guili, c'est parce que je suis contente. Mon livre arrive dans un bon timing, dans le sens que moi, quand j'ai étudié la sexologie il y a 20 ans, puis il y a même encore 3 ans, tout était encore très, très flou par rapport au clitoris, parce que comme c'est un organe féminin, on s'y est pas attardé, c'était pas important. Mais mon Dieu, qu'on a découpé le pénis
non, c'est pas important, c'est
de 12 000 façons depuis des centaines d'années. Puis là, on a toujours eu l'impression que l'orgasme était... Un petit, comme un restant de pénis ou presque.
Ouais, c'est un petit bouton de rien.
Un petit bouton de rien. Puis là, on vient de se rendre compte récemment que, ben, comme Guili, pour vrai, il est
On va mettre une photo sur Instagram.
Je me suis vraiment basée sur les vrais trucs en 3D là, de clitoris. Juste pour vous donner une idée, un pénis à 5000 terminaisons nerveuses, le clitoris en a 8000.
OK, donc et on gagne.
On gagne vraiment beaucoup. Et en plus, le clitoris est le seul organe sur la Terre dont la seule fonctionnalité est le plaisir.
Mérite une main d'applaudissements.
Merci.
Là, t'as inventé Guili.
C'est parce que dans notre il y a deux chansons qu'on fait dans nos qu'on a fait dans le lancement puis qu'on fait parfois en spectacle. Le projet Céron, il y en a une qui s'appelle Viva la vulva.
Okay.
Et là-dedans, les back vocals sont chantés par Guy.
Oh,
fait que je me suis dit, il faudrait que Guy soit personnifié à un moment donné, tant qu'à chanter. Fait que j'ai décidé de créer
c'est
Guy.
C'est toi qui l'a cousu?
Oui. Moi, je suis allée chez Dolorama, j'ai acheté une paire de boroses, puis j'ai fait Anne-Marie, comment qu'on va faire ça? Puis ça a donné ça.
Ben c'est correct.
Puis j'ai mis des yeux parce que c'est moins épeurant.
Une maudite chance qu'il y a des yeux.
Je tiens à dire que le mien, il n'y a pas d'yeux.
Et là, vous êtes même venu avec la guitare, Guili, parce que de où ça vient, la guitare, les chansons?
Bien, c'est qu'en fait, moi, je fais aussi partie du Progestérone, qui est mon groupe d'humoristes féministes, on va le dire, même si ça fait peur au monde. Et là-dedans, on fait des chansons. On avait la chanson « Elle s'en calisse », qui vient du produit « Elle s'en calisse », la crème miracle là, pour se calisser toutes. Et on a fait une toune avec ça. Et on s'est mis à composer d'autres chansons à saveur féministe. On a « La femme n'est pas une poupée », on a « Viva la vulva » et on a la chanson « L'orgasme », qui est la chanson tout indiquée.
Du livre.
Pour le
livre. Oui, c'est parfait.
Là, on s'est dit tant qu'à venir.
Tant qu'à venir.
Pourquoi pas venir avec une guitare?
Les gags, c'est un après l'autre. Hein?
Ouais. Dis-moi, c'est quoi la clientèle de...
De mon livre?
Ben, de ton livre, mettons...
De tes produits, c'est comme un tout,
ouais, c'est
là.
Ça, de tes produits, de tes projets. C'est
ben moi, c'est sûr que c'est spécifiquement les femmes, mais j'ai plein d'hommes qui me suivent. Et ça me ravit parce que je pense pas que le féminisme est... quelque chose qui devrait être réservé aux femmes. Puis à chaque fois que j'ai des gars qui embarquent dans mes projets, je trouve ça merveilleux. Le livre, les gars, ils ont dit, est-ce qu'on peut lire? Moi, honnêtement, être un homme, je le lirais. Parce que quoi de mieux pour savoir ce qu'une femme peut désirer que de lire ce qu'une femme écrit? Puis il faut dire que c'est un livre aussi, l'option de à la carte, c'est que tu peux être dans un bar, puis te faire croiser par un gars puis une fille, puis là, tu te fais demander, veux-tu aller avec lui, avec elle ou avec les deux?
Oh, ouais.
Tu sais, on a beaucoup, beaucoup de portes. Moi, je voulais sortir de l'hétéronormatif. Moi, je suis bisexuelle, je le dis depuis des années. D'ailleurs, je prends des... si vous voulez poser des candidatures, là, je vous donnerai mon email tantôt. Non,
c'est
une joke!
C'est quoi? Ici, on est bien ouvert. Jonathan Garnier qui vient ici constamment le rappelle au maire qui est célibataire. Écoute, tu peux te gâter.
Voilà. Non, mais je trouvais ça important de rappeler qu'il y a toutes sortes de sexualités. Puis tout ce qui est important là-dedans, dans le fond, c'est le plaisir et c'est le consentement.
Mais souvent, tu sais, quand on nous offre de la littérature pour les filles, c'est souvent, je veux pas dire que c'est poche, mais je veux dire que la littérature sexuelle, là,
ben moi, en général, ça m'ennuyait.
Je pensais que ma sexualité était poche, puis quand j'ai ça, je me dis finalement, elle est hot, ma sexualité, je dis ce qu'il y a dans les livres, tu sais, parce que...
Mais c'est difficile à écrire, hein? Faut dire que c'est difficile à écrire, c'est le festival du synonyme, parce qu'il y a des mots qui reviennent souvent, puis tu sais, à un moment donné, tu sais, il n'y a pas 128 façons là, de dire graine ou de dire clitoris, là. Mais moi, je voulais justement écrire le livre que j'aurais aimé lire. Moi, j'ai beaucoup d'humour, je voulais mettre de l'humour là-dedans, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Y a un personnage qui s'appelle Clit pour Clit Eastwood.
Okay.
j'ai mis plein de blagues, mais tu sais, comme un gars qui dit « appelle-moi vieux jeu, mais moi, ça m'excite au bout de le consentement », tu sais. J'essaie de plugger des affaires qui sont très 2019, mais avec beaucoup d'humour, puis sans la pression, justement, de que la fille peut ressentir de faire toutes ces choses-là. Fait que je me suis dit, pour la fille qui n'osera jamais aller en arrière de toutes ces portes-là dans sa vraie vie, je veux lui offrir un endroit où elle peut y aller, puis personne ne va la juger puis la traiter de tous les noms, puis elle n'aura pas peur d'être
parce
enceinte.
Parce que c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et parce que c'est ça aussi, les filles qui veulent essayer ou qui s'intéressent, ben, c'est des charrues, là. C'est des salopes.
Ah,
c'est
oui,
comme
oui,
ça qu'on les traite.
Puis moi, je me suis fait traiter de tous ces noms-là, puis j'ai toujours dit, regarde, moi, quand je suis célibataire, je me protège, qui ça regarde ce que je fais dans mon lit
personne.
Avec qui? Personne.
C'est toi. Ouais. Mais c'est... si je peux me permettre, mais juste oui, pour vous donner un exemple, il y a à la fin d'un chapitre, c'est dans un petit carré, il est écrit « Je décide ». C'est soit d'aller au bar, de commencer par un verre et de quelque chose de plus ordinaire. Oh, oh, c'est pas ça, Bianca. Je me rends à la section 18 ou de rester et de regarder l'orgie du haut de la balustrade. Je vais à la section 9. Donc, à chaque fois, à la fin d'un, d'un chapitre, c'est on choisit.
Ouais.
Je pense que c'est très
et
cool.
Et cette scène-là, ça se passe au donjon qui a des soirées tous les samedis soirs qui s'appellent les Grands Explorateurs.
Une petite soirée ordinaire, là, tu sais. Là, tu vas au Normandin ou tu vas aux Explorateurs.
Donc, c'est ça. C'est vraiment des choix. Puis j'ai même réussi à ça n'a pas été facile à insérer la protection, le port du condom dans
parce
la relation.
Que c'est comme un peu la réalité. Là.
Ben, j'ai pas
le
choix.
Le turn-up, il faut que tu sortes ça
ben,
quand t'es dans le mot.
Ben, c'est ça. Puis je me le suis demandé. Puis c'est pas évident de rendre ça sexy, mais je pouvais pas le mettre parce que je voulais pas avoir l'air de quelqu'un qui endosse les relations non protégées. Fait que je me suis dit, il faut que
mais
je le mette.
Mais en plus, c'est la réalité.
Ben, c'est ça.
Hey, t'es dans le feu de l'action, tout, parce que c'est comme.
Ben, c'est ça. Mais moi, ça, je l'ai mis là-dedans.
En as-tu? Puis là, faut-tu le mettre? Ça fait partie de la qualité de tout le monde.
Ça fait que si on n'en parle pas, on est à côté de la réalité. Fait que ça, j'en parlais, le consentement aussi. Il y a une scène où elle est à trois avec un homme puis une femme, puis là, elle se fait demander, elle veut-tu aller plus loin juste avec la fille ou avec la fille puis le gars? Est-ce qu'elle veut que le gars observe ou est-ce qu'elle veut qu'il participe? Puis ça, ça peut arriver aussi. Puis je voulais démontrer que c'est pas juste au début qu'il faut qu'on ait ton oui, c'est à chaque étape
ouais,
de la
ben
relation.
C'est le principe de la tasse de thé, hein?
Ben, c'est
même
ça.
Si c'est en train de boire le thé, ça ne te tente plus finalement, t'as plus soif.
Ben,
hein,
c'est
ça. Arrêter là.
Je me dis, c'est pas parce que je fais de l'érotique que tout d'un coup, toutes ces barrières-là n'existent plus.
Tout le monde
en
dit
2019,
oui, puis.
Ben non, mais c'est ça, ça existe encore. Puis mon monde n'est pas complètement gelé, complètement sous. Tout le monde est dans des états bien normaux. Je fais attention qu'ils ne boivent pas trop pour ne pas donner l'impression qu'il faut boire 123 gin tonic pour
ben,
être capable de chacune
de
filles.
Juste te dire qu'ils vont pas baiser, hein?
Non, mais c'est.
Il va dormir en
essai. C'est intense d'écrire ça. Finalement, tu te rends compte là, mais que tu dois faire attention maintenant quand il y a une question de sexualité.
Mais en fait,
là,
c'est juste transposer la réalité.
La réalité, mais c'est ça, pas trop d'alcool, les condoms, le consentement.
J'ai fait vraiment
là,
attention.
Il y a vraiment des balises.
Quand
là.
On lit, c'est au jeu, puis je décris jamais la fille du jeu parce que je veux que la fille puisse se reconnaître. Fait que je me suis dit, si je commence à dire qu'elle est rose, qu'elle est ci, qu'elle est ça, on ne peut pas. Et tous les gens qu'elle rencontre ne sont jamais décrits non plus. Ils sont juste décrits dans la sensation qu'ils donnent. Ah, okay. J'aime la confiance qu'elle a quand elle marche, cette façon qu'elle a
de se bouger les cheveux.
Bon, des choses comme ça, mais je ne vais pas dire, elle est grande, elle est mince. La beauté,
toi, tu
là,
peux y penser
relatif.
Dans ta.
Oui,
c'est ça, tu peux penser, toi, avec qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qu'elle avait
ben,
l'air.
C'est ça, puis je ne voulais pas commencer à dire, elle est belle, elle n'est pas belle, il est beau, il n'est pas beau. Il y a juste une fois qu'on comprend que la fille avec qui elle est, sa peau est noire, parce que je fais une allusion au goût du chocolat, ouais. Parce que je voulais qu'on sente au moins la diversité dans mon livre. Mais je n'ai pas viré folle avec ça non plus, mais je me sens en 2019, ça aussi, c'est important que n'importe quelle femme qui le lit puisse sentir que ça peut être autant elle que toi, que moi. Que tout
fait que
le
ça,
monde.
Ça, c'est-tu un recueil de tes histoires à toi?
Ah, ça, il y a juste les gens qui étaient dans mes histoires qui le savent.
Bon, juste pour te dire que la guitariste a fait un petit clin d'œil, fait que on sait que la guitariste est sûrement dans le livre.
Il y a un peu de vrai là-dedans.
mais t'as changé ton registre. Est-ce que tu passer de moment de maman à orgasme à la carte? T'étais-tu tannée d'être dans la carte maman?
Je sais que vite de même, ça a l'air de ça, là, mais le premier, c'est Ma vie amoureuse de marde. Le deuxième, c'est Une fois, c'est une fille où, avec Annie Deschamps, j'ai rencontré 35 femmes drôles du Québec.
Ouais.
Après ça, c'est Moment de maman, puis après ça, c'est Le compagnon du cœur brisé, orgasme à la carte. Il y a deux choses qui sont toujours dans tout ce que j'écris, c'est-à-dire l'humour et l'amour.
OK.
Tout le temps.
C'est la base, puis après ça, tu vas où tu veux. Mais
oui,
j'aime
moi, c'est mes
en même temps,
deux
là.
Termes avec tout le temps un côté très
c'est
féminin.
Pas une niche. Puis
non, moi, je raconte des histoires avec de l'humour. Fait que je raconte ma vie de monoparentale avec mes deux enfants de couleur ou que je raconte mes histoires de vie amoureuse de marde ou que je raconte des histoires de cul comme ça, il y a toujours de l'humour puis il y a un amour des gens. Mm-hmm. Moi, je veux partager avec les gens, je veux les faire rire puis leur faire du bien. Moi, c'est ma meilleure paye, c'est quand les gens me disent « Ah, oh, tu m'as fait du bien ». Puis peu importe le livre, c'est ça que je reçois à chaque fois. Puis ça, là, je pense que je vais me le faire dire beaucoup.
Ouais, c'est...
t'as fait du bien à mon Guy.
Et sur scène, qu'est-ce que t'as, tu sais, parce que là c'est vraiment auteur quand même, ouais. Là, tu sais, sur scène, qu'est-ce que c'est?
Ben moi à la base je suis humoriste. Ouais. Moi j'ai fait des shows en français, en anglais depuis plus de 20 ans, mais c'est bizarre vu que j'ai 28, mais j'ai commencé très, très jeune. Mais moi, là-bas, je suis humoriste. Je suis une raconteuse d'histoire. Que ce soit dans des courts-métrages, j'en ai fait beaucoup aussi. Que ce soit avec le projet Stérone, que ce soit avec ma vie amoureuse de Marde, qui est rendue une page avec 35 000 fans, une grosse communauté. Je fais des soirées célibataires, des quiz. Je fais plein de trucs. Mais à la base, je suis une fille drôle.
Okay.
Quand je chante, quand j'écris, peu importe ce que je fais, moi, c'est toujours l'humour.
L'humour
qui m'a sauvé la vie. Et c'est ça qui me rend heureuse, c'est de faire rire les gens. C'est une des plus belles affaires au monde, de faire rire les gens. Tu le sais, tu le fais toi aussi.
Ben oui.
Ton chum le fait. Faire rire les gens, moi, j'ai toujours le rire, c'est l'orgasme de l'âme. Fait que, tu sais, on tout
dit,
est dans
mais
tout.
T'as tellement raison.
Tu sais, rire, c'est un massage de l'âme. Ouais, c'est ton âme qui fait « Ah! » mais qui jouit ouais. avec le rire. Fait que moi, je trouve, tu sais, je suis comme une prostituée de l'humour dans le sens que moi, je veux donner de l'humour à tout le monde. Puis c'est ça que je vais faire toute ma vie. Je fais rire mes enfants, je fais rire mes parents, je fais rire mon chum. Mon chum me fait rire. C'est le même qui m'a séduit en me faisant rire. Puis moi, j'ai toujours fait, justement, si ma vie amoureuse de merde. Si un gars vous fait pas rire ou ne rit pas à ce que vous pensez être drôle, courez dans l'autre sens, parce que ça va être long, longtemps.
À long terme, ouais, ça dure plus. Ben, ça, oui, le rire est dur, l'humour dire plus, fait durer aussi les groupes.
Ben oui,
parce
à 80,
que...
quand on sera plus capable de faire toutes ces positions-là, on est mieux de
je
se trouver drôle.
Je te dis que ça arrive
hein,
avant
que...
80, je veux juste te dire.
J'ai tout
quand
un numéro
ans,
là-dessus.
Ça a changé en tabarouette.
J'ai tout un numéro là-dessus, Bianca, il faudrait que tu vois ça.
J'ai moi aussi une chance qu'il me reste l'orgasme.
Une chance qu'il nous reste l'humour.
Oui, c'est ça. Une chance qu'il nous reste ça. Et là, avec, est-ce que vous êtes ensemble dans le projet, toi et Andréane, dans le projet
Dans le projet Stérone, je suis avec Anna Beaupré-Moulunda et Catherine Amann. Ça fait 2 ans qu'on est les trois ensemble, mais on a notre division humour, chanson humoristique maintenant, okay. qui s'appelle Les Stéronettes.
OK, Les Stéronettes.
Oui, fait que le petit band de musique, c'est Les Stéronettes, avec okay. nos chansons, puis bientôt...
Dont Andréane fait partie.
Oui, exactement. Comme quand on fait des shows corpo, on propose version juste projet Stérone ou projet Stérone avec Les Stéronettes. Fait que des fois, ils prennent la musique, des fois, ils prennent ça, mais nous, on est en train de préparer un EP, on va vraiment sortir des tunes pour vrai. Là.
Des tunes,
on fait
des
pas
tunes.
Juste les...
Non, mais c'est ça, vous allez, on va pouvoir les écouter dans nos salons, tout ça. Là.
Oui. Mais ben, sans caler, on peut déjà l'acheter sur iTunes. Celle-là, on l'avait mixée avec Mistress Barbara.
Okay. Mon Dieu, quand même. Là.
Oui, quand même. Hot, là, on a des projets d'aller peut-être enregistrer en Angleterre cet été. Parce que mon frère est musicien, puis il y a un studio en Angleterre. Puis, tu sais...
Ah, pis, pourquoi pas?
C'est quand même aller. Mieux l'Angleterre
que
Tarbonne. Oui. D'un studio à Saint-Lin. Hein,
au moins, je ne paierai pas le technicien trop cher, c'est mon frère.
Mais je te dis, c'est la seule affaire sur quoi tu vas économiser.
Oui, non, mais au moins, je vais habiter là-bas.
Oui, c'est à la bas côté.
On va manger
puis
beaucoup
d'indiens. Puis tu vas pouvoir nous sortir un nouveau livre, livre d'histoire sexuelle.
Bien, le 2, il se passe dans le sud.
Ah
oui? Oui, c'est Orgasme à la carte au chaud. Parce que maintenant, il existe des resorts olé-olé dans le sud.
Mais tu n'as pas besoin d'aller dans un resort olé-olé pour t'envoyer en
l'air. Non, c'est plus fun.
Moi, j'ai une question pour toi parce que c'est assez. C'est clair là, sur le dessus, là, orgasme à la carte. Et de plus en plus, moi, de livres en lien avec la sexualité, tu sais, souvent, on essaie d'être assez mystérieux sur le dessus pour que, exemple, dans les transports en commun, non, mais tu sais, on puisse.
Bien, moi,
lire...
il traîne chez nous. Ma fille a dit c'est un livre de quoi ça? Je gâche que c'est un livre pour adultes. oui.
Est-ce que tu as eu le souci de rendre ça un peu plus subtil, le dessus, ou tu t'es dit, moi, je vais aller.
C'est pas
justement.
Subtil. Là.
Ben, non, mais justement, est-ce que tu t'es posé la question? Parce que c'est sûr que moi, dans le métro, je suis peut-être pas la plus à l'aise.
Orgasme comme... à la carte.
Ah non, mais bon, ça, c'est rien. Le monde me disait ça avec ma vie amoureuse de merde qui était gênée aussi de le lire dans le métro.
Mais ça, c'est quasiment assez payé, ça.
Ben, je pense
parce
que
ça
oui.
veut vraiment tout dire.
Ça,
là,
au moins, ça veut dire que ça va bien ce soir. Mais en fait, c'est que je voulais pas me ramasser avec une image où la femme est objectifiée avec... Je voulais pas une paire de seins dans une brassière.
Ah oui, genre une fille.
Je voulais pas des affaires de même. Puis, j'étais avec mon éditrice, puis j'ai dit, honnêtement, tout ce que je vois, c'est deux bouches qui s'embrassent, puis je veux pas qu'on sache tout de suite si c'est une fille puis un gars. Je veux qu'on sache que c'est une fille, puis que l'autre, on sait pas, puis je veux un truc très pop art. Je veux bien des couleurs. On a googlé une image, on l'a acheté, j'ai gossé dessus chez nous avec mon Apple Pencil, mon nouveau meilleur ami. Ouais. Puis j'ai envoyé ça, puis en fait, c'est parfait. Puis ils l'ont juste fait arranger par les graphistes. C'est moi qui ai fait la conception. Je la trouvais belle de même. J'ai dit, je veux des couleurs qui s'affirment. C'est fini d'avoir honte de se toucher, d'avoir du fun. Je voulais pas que ça soit orgasme à la carte. Orgasme à la carte!
Non, mais c'est parfait, parce que c'est souvent ça. Orgasme à la carte, parce qu'on veut pas que les gens autour sachent qu'on est en train de le lire. Toi, c'est tout le contraire. C'est comme dans ta face.
Mais c'est
très, je me roule la bille, mais j'aime ça.
Mais tu sais, c'est drôle d'être si gênée de quelque chose qui est à peu près la seule chose que tout le monde sur toute la Terre
fait. Oui, tout le monde fait, ben oui. T'sais? Et là, avec Andréane, vous allez nous chanter.
Ouais.
Ouais.
On va vous donner un orgasme.
Et on peut trouver orgasme à la carte, parce qu'on va terminer avec la chanson non, Orgasme à la carte, il est partout, là.
Oui,
là,
il est partout depuis hier. Oui, il est en librairie depuis hier. On peut le trouver dans toutes les librairies. Si vous le trouvez pas, vous le commandez au libraire, mais je pense que vous allez le voir avec le jaune pétant puis le rose.
Et tout ce que tu fais avec les stéronettes, comme ça,
le projet
Stéronette, sur scène, les livres, où on peut suivre tout ce que tu fais.
Tout ça, c'est sur annemariedupras.com ou sur le projet Stéron.com. Puis ceux qui sont trop gênés pour aller l'acheter en librairie, sachez que si vous l'achetez en version numérique, ce qui est même le fun, c'est que les renvois vont être automatiques. Fait que vous ne serez pas obligé de fouiller dans votre livre, vous allez peser sur la section.
Hop,
ça va vous amener.
Oui. Ah,
j'ai même fait une playlist sur Spotify qui s'appelle Orgasme à la carte pour si tu as besoin de musique, d'ambiance pour mettre pendant que tu es en train de te rouler le
guili-guili.
Mais attends, comment ça s'appelle? Là, je suis sur Spotify.
La playlist s'appelle Orgasme à la carte.
Okay. Et là, on va voir la chanson tout de suite qui s'appelle?
Orgasme.
Orgasme à la
avec un S. Avec un S à la fin.
Avec
oui,
oh, des
orgasmes. Oui.
Allez-y,
oui.
Les filles.
On en veut tous.
Oh oui,
vois.
Oh oui. Oh oui,
on veut y
oh
parvenir.
Oui. Venir, venir, venir,
y
venir.
Y'en a des cours pour
vas-y,
ça.
Vas-y, vas-y,
si ça
vas-y
peut te servir.
T'inscrire, 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 t'inscrire.
Oh oui, on y a
le droit, le droit, le droit.
Oui, on veut te plaisir.
Jouir, jouir, jouir.
Et ça dépend de toi,
moi, de toi.
Où je peux m'auto-suffire.
Oh, tu me le feras pas dire.
On aime les oh, 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 les orgasmes. On aime les oh, 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 les orgasmes.
Jouir de la vie,
c'est pas rien, c'est pas rien.
C'est pas rien, c'est
pas rien, encore mieux.
Fois deux, fois deux, fois deux, fois deux.
Fais-toi de tes coquin, deux mains,
coquin, coquin, coquin,
ta langue
coquin
de feu.
Oui, je le veux, oui, je
quand
le veux.
Quand toi tu es
chanceux,
venu,
chanceux,
chanceux,
moi j'en demande autant.
Mais un,
c'est
pas comme dans les
de
vues.
Cul, de cul, de
la
cul,
pointe
de
c'est
de
déprimant.
Ouais, ouais.
On aime les oh, 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 les orgasmes. On aime les oh, 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 les orgasmes. Oh, septième ciel.
C'est prouvé quand on jouit, la vie est plus belle.
Oh, septième ciel.
Ça y est, je suis accro, je repars de plus belle.
Oh, septième ciel.
C'est bon pour le moral, je me sens plus belle.
Oh, septième ciel.
Le sport le plus génial. Allez, à poil.
On aime les oh, 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 les orgasmes. On aime les oh, 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 oh,
oh, oh, oh. Je t'arrête tout de suite, on aime ça, mais c'est pas juste qu'on aime ça. On va être honnête, en fait, Bianca, on en veut.
Tellement qu'on en
on
veut.
En veut.
Oui, on en veut, Anne-Marie.
On en veut.
On veut des oh, 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 les orgasmes.
On veut des oh, 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 les orgasmes.
On en veut encore, on en veut
encore, encore, encore.
On veut des oh, oui, oh, 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 les orgasmes.
Oh, je sens que ça sent bien, Adrienne.
On veut des oh, 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 les orgasmes.
Mère ordinaire.
Les meilleurs moments de la dernière saison. Cube Radio. Cube Radio.
Mère ordinaire de retour. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est quand même assez qui est pertinent pour tous les parents. Tous les parents se posent cette question-là. Est-ce que mes enfants sont stressés? Est-ce que je stresse mes enfants? Est-ce qu'ils ont trop d'activités? Est-ce que j'agis comme il faut avec eux autres? Est-ce que je mets trop de pression sur le sport, sur l'école, les écrans? Est-ce que ça les stresse? Et moi, je pourrais dire, est-ce que mes enfants sont stressés? Je sais pas. Est-ce que moi, je suis une personne stressée? Je pense que oui, je sais pas, mais je trouvais ça intéressant parce que il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Les enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement. Et sereinement étant quand même assez important. Et comme parent, moi, je trouve que ça vient me chercher. Donc, je voulais en parler avec l'auteur, qui est Nathalie Parent, qui est psychologue spécialiste de l'enfance et de la parentalité. Elle est au téléphone aujourd'hui. Allô, Nathalie?
Bonjour, Bianca.
Nathalie, merci d'avoir pris le temps merci de prendre le temps de venir nous parler de ton livre. Et Nathalie, est-ce que tu as des enfants?
Oui.
T'as combien d'enfants? T'as trois enfants. Donc, ouais, t'es dans ma gang. Ils ont quel âge?
17. Il faut toujours que je réfléchisse. 17, 14 et 9 ans.
OK, quand même. Tu sais de quoi tu parles. En plus d'être psychologue auprès des enfants, c'est aussi, toi aussi, t'es mère. Donc, des fois, parce qu'il y a des spécialistes qui parlent d'enfants, puis je me dis, oui, c'est très beau, hein? C'est très beau sur papier, mais ils n'ont aucune idée. Quand on va mettre ça en pratique, ça, c'est pas possible.
Effectivement, hein, c'est parce qu'on est parents qu'on apprend, puis moi c'est aussi à partir de mon expérience, pas juste mon expérience clinique, mais comme maman que j'apprends des choses, puis que j'ai le goût de transmettre un peu aussi ce que j'ai appris.
Le stress, est-ce que c'est comme nouveau, hein? Moi, quand j'étais jeune, on parlait pas de ça, les enfants qui sont stressés. Je me souviens pas que ma mère, même j'ai appris le mot stress plus tard en devenant adulte. C'est comme si je parlais jamais de ça quand on était jeune, le stress. Maintenant, mes enfants, ils savent qu'est-ce que ça veut dire être stressé.
Oui,
c'est vrai, nouveau? Hein?
Ben, je pense que ça a toujours existé. Le stress, il y a un bon stress qui est sain puis qui nous pousse à grandir là dans la vie. On en a besoin parce que zéro stress, on pourrait mourir. Hein? C'est le stress qui nous apprend à être vigilant, à reconnaître quand faut traverser la rue par exemple ou quand il y a un danger. Ça nous permet d'être en alerte à ce qui se passe aussi autour. Donc c'est fondamental. Ça prend un minimum. Mais une dose trop grande de stress, c'est là que ça peut causer des problèmes. Mais vous savez, avant d'être psychologue, moi j'ai travaillé en physiothérapie et puis ça date d'il y a 20 ans. J'ai terminé plus que 20 ans. C'était en 92. Et puis on parlait déjà du mal du siècle, le stress.
Mais le stress, là, quand vient l'idée de faire un livre sur le stress, c'est évidemment pas le bon stress. J'imagine que c'est le stress qui est négatif dans notre famille, qui empoisonne un peu la vie des enfants.
C'est sûr que je parle des moyens de prévenir le stress chronique qui fait que le stress chronique, c'est ce qu'on appelle le moins bon stress, là, qui fait qu'on peut arriver en épuisement, qu'on développe des troubles de comportement, de l'hyperactivité, par exemple, qui peut nous amener aussi à vivre de l'anxiété beaucoup. Donc, moi, c'est ce que je rencontre aussi autour de moi, puis dans ma clinique, hein, des enfants qui vivent beaucoup d'anxiété, des troubles de comportement, de la difficulté à gérer les émotions. Bon, c'est ce que je reçois beaucoup, puis on voit là comment les éléments de stress peuvent venir nuire.
Et nous, comme parents, là, comment on fait pour savoir si notre enfant... Tu sais, même moi, je me suis posé la question avant d'entrer en onde, me dis, mes enfants sont-ils stressés? Peut-être parce que moi, je suis du genre... J'ai l'impression parce que moi, je suis du genre nerveuse. Mes enfants vont être nerveux, vont être stressés par moi. C'est-à-dire que je vais mettre de la pression ou je vais être plus, je sais pas comment dire ça, plus nerveuse qu'eux autres. Donc, je transmets ce stress-là. Et là, je me pose la question, mes enfants sont-ils stressés? Comment, comme parents, on peut savoir si nos enfants sont stressés?
Oui, ben ce que vous décrivez là, Bianca, c'est hein, comme le fond de la personnalité, hein, la personne un peu plus nerveuse, plus aux aguets, mais ça fait des personnes vivantes, agréables à côtoyer, hein. On veut pas enlever ça, on veut pas éliminer ça. Ça, vous allez le transmettre à vos enfants, puis c'est parfait, ça va faire des personnes un peu plus vivantes, qui bougent et puis qui sont mais ça c'est pas négatif.
Mais
il faut pas,
mais ça peut quand même aller du côté négatif. Et comment on fait pour savoir si nous-mêmes on amène un stress chez nos enfants?
Bien, c'est plus comme la quantité de stress qui peuvent nuire. Donc, tous les événements de stress qui peuvent arriver puis qu'on n'est pas à l'écoute. Par exemple, la rentrée scolaire, c'est un moment où les enfants sont très stressés. C'est un stress, c'est normal. Il faut comme le normaliser, le dire. C'est hein, juste nommer aux enfants que c'est vrai que c'est stressant. Ça se peut que quelques jours avant la rentrée scolaire, il y ait plus de difficultés à aller dormir. Ils veulent pas aller se coucher. Bon, tout ça. Même les ados, là, puis c'est normal, on va le nommer avec eux. Mais si nous, comme parents, on en rajoute, c'est-à-dire que on se met à être encore plus exigeant à cette période-là de l'année, qu'on n'est pas à l'écoute, que oh, tout d'un coup, il y a une crise qui arrive, là, c'est important pour nous de faire le lien avec « Ah, ça se peut qu'à l'approche d'une compétition, de sport ou de la rentrée scolaire, je reprends mon idée, qu'il soit un peu plus stressé. » Donc, d'être à l'écoute de ça, ça me permet d'ajuster mes exigences. Hein. Je ne demanderai peut-être pas de faire sa chambre ou de se tenir assis pendant 2 heures en train de faire les devoirs dans cette période de rentrée scolaire-là. Mais donc, nous, en fait, c'est là qu'on s'ajuste.
Ben c'est ça, mais nous, en fait, comme parents, c'est comme si moi, ça m'a pris plus qu'un enfant pour. C'est plate pour la première, là, mais c'est comme ça. C'est-à-dire pour me rendre compte que, par exemple, mon enfant faisait plus de crises dans certains moments. Et moi, je pensais que ben, c'est terrible de dire ça, mais je pensais que c'était comme exprès. Je n'étais pas capable de comprendre qu'il y avait un élément de stress. Et au lieu de tu sais, l'enfant, évidemment, il dit pas maman, je suis stressée, là, mais il démontre par des comportements que moi, je n'étais pas capable de décoder ça. C'est-à-dire que maintenant que j'en ai trois, je suis capable de comprendre que oui. Mais au premier, je me disais, coudon, ça fait exprès. C'est pas parce qu'il est stressé, c'est vraiment parce que, coudon, elle veut pas écouter, tu sais.
C'est vrai qu'on fait ça. Puis moi, je passe mon temps à dire, à ma grande fille, mais je dis à mon aîné, écoute, on fait nos expériences sur toi, tu sais, tu nous aides à apprendre. Puis on est souvent meilleurs parents, puis moins stressés, moins anxieux face au deuxième ou au troisième enfant.
Et est-ce qu'on devient, est-ce que c'est drôle parce que dans le livre, on parle de ça, être un bon parent. On est-tu un parent suffisamment bon? Et ça, là, ça, c'est le questionnement de sorte. Je veux pas dire, parce que moi, je suis une mère, donc je parle pour les mères, parce que je connais pas la réalité des pères. Mais moi, comme mère, je suis constamment en train de me remettre en question. Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que ma famille est une bonne famille pour mes enfants? Est-ce qu'on agit correctement? Et comment on fait pour savoir si on est-tu un parent? Puis c'est bon parce que c'est écrit. Bien, c'est bon. C'est bien parce que c'est écrit suffisamment bon. Donc, on met pas, tu sais, comme le parent parfait. Mais est-ce qu'on est suffisamment bon pour nos enfants? Puis moi, j'ai fait le petit test et je me rends compte, c'est pas tant demandant d'être un bon parent.
Ben pas tant. C'est ça. C'est souvent qu'on se met beaucoup de pression, mais un point important que vous venez de dire, c'est de se remettre en question, c'est fondamental quand même. Hein? Ça nous aide à vouloir être un meilleur parent. Ce qui veut pas dire qu'il faut absolument penser qu'être parfait, c'est ça, être un bon parent, non. Il y a un psychologue qui avait élaboré cette notion-là de la mère suffisamment bonne. C'est elle qui aide son enfant à grandir. Puis c'est quoi être suffisamment bon? C'est, de faire des erreurs, puis de le voir qu'on a fait des erreurs, qui sont pas nécessairement des erreurs, mais des apprentissages. Par exemple, mettre un délai dans la réponse, quand le bébé est tout petit, on répond rapidement, mais plus il grandit, plus on voit qu'il est capable d'attendre, puis qu'on n'a pas à répondre tout de suite à sa demande. Hein? Donc, créer des moments de patience, d'attente, c'est bon. Ne serait-ce que aussi quand on se fâche, parce que tous les parents, là, c'est normal d'arriver à perdre patience à un moment donné, c'est même sain. Hein? Et puis, ce qui est encore plus sain, c'est de reconnaître que, ah, OK, ouais, là, ça m'a fâché parce que, hein, donc de prendre le temps de réfléchir là-dessus, puis après ça, de retourner voir son enfant pour s'en excuser ou dire, écoute, j'ai monté le ton, c'était peut-être pas adéquat ce que je t'ai dit, je suis désolée, je vais réfléchir à ça pour les prochaines fois, je vais essayer de me contrôler.
Mais ça, c'est un bon exemple, hein? C'est un bon exemple à donner aux enfants aussi. C'est pas arrivé avec la première. J'avais l'impression que comme parent, là, tu sais, moi, mon comportement, j'avais pas nécessairement à revenir là-dessus. Mais après ça, on s'habitue. C'est-à-dire que on se rend compte que ce qu'on dit, c'est on s'habitue à pas être parfait. C'est-à-dire que je me dis, ben voyons, non, ça n'a pas d'allure. Je me suis énervée, j'ai crié pour telle affaire, j'ai dit telle affaire, ça n'a aucun bon sens. Donc, après, d'aller voir puis dire, je pense que ce que j'ai dit, je le pensais pas vraiment ou c'est pas correct ce que j'ai dit. Et d'aller, ça donne un bon modèle à l'enfant parce que l'enfant, après, est capable de faire la même chose.
Absolument, ça lui montre à s'excuser, à voir qu'il est pas parfait lui non plus. Il a le droit de pas être parfait quand il nous voit qu'on est imparfait. Hein? C'est fondamental, c'est ce qu'on leur transmet dans ce temps-là.
Et est-ce qu'il y a des événements dans une famille ou dans la vie d'un enfant, on peut dire par exemple entre 0 et 18 ans, qui sont plus stressants que d'autres, qui font vraiment là, qui peuvent poser vraiment que en général ça stresse les enfants, puis ça peut être pas dangereux, mais vraiment nocif pour notre enfant?
Des événements de tous les jours.
Mais comme par exemple, plus dans la vie, par exemple, on parle d'un divorce. Est-ce que, tu sais, les séparations, c'est quelque chose de quand même très fréquent et on a l'impression qu'on va stresser nos enfants avec ça. Il y a sûrement des parents qui restent ensemble parce que les enfants, ils ont peur de stresser les enfants, mais peut-être que c'est pas la bonne chose. Il y en a d'autres qui sont séparés qui doivent dire mes enfants sont stressés, la garde partagée. Est-ce qu'il y a des événements comme ça qui sont des stresseurs vraiment? C'est presque, ça va stresser tous les enfants, là, peu importe à qui ça arrive.
Ben, il y a une liste, hein, une échelle de stress, qui a l'échelle de Holmes, entre autres, qui montre un degré de graduation d'événements de stress, dont la mort, c'est un des plus stressants, mais ou la mort d'un parent, mais la séparation fait partie des premiers événements dans le haut de la liste. C'est un événement stressant. Quoique, je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, quand je donnais une conférence sur le sujet, elle me disait à la pause, écoute, moi, j'ai trouvé que mon enfant était beaucoup plus calme après la séparation que pendant qu'on était en couple parce que ils étaient constamment dans le conflit. Alors, on sait que le conflit, quand on voit nos parents en conflit constamment, puis un conflit qui ne se règle pas, c'est de la tension beaucoup qui est accumulée hein, chez l'enfant.
Oui.
Donc, c'est pas nécessairement mieux que de vivre la séparation.
Donc, c'est pour ça qu'on dit des fois c'est mieux être séparé que de tout le temps vivre dans un milieu familial où ça crie, où ça s'insulte et tout ça. Là.
Absolument. Par contre, moi, je dis tout le temps, la première chose à faire, c'est d'aller consulter quand ça va pas comme couple, parce qu'on a une responsabilité, hein. On a eu des enfants, c'est sûrement pas pour la première chose qui arrive de se séparer, hein. Il faut vraiment faire un effort, parce que de toute façon, quand on a une famille, souvent, on tend à répéter des patterns de notre propre famille. On s'en rend pas compte nécessairement. Mais des fois, il y a des choses que notre conjoint nous rappelle de nos parents ou de nous-mêmes ou de les enfants vont nous rappeler même des fois un frère ou une sœur, un comportement qui méritait chez mon frère. Donc, ça vient appuyer sur ce que je dis, des boutons rouges explosifs chez nous. Hein, on a tendance à réagir à différentes attitudes.
Et est-ce que le stress d'une famille influence l'enfant? Parce que j'entends, c'est pas juste le stress de l'enfant, mais souvent le stress de la famille au complet, le stress qui vit, qui règne dans la famille, influence l'enfant. Donc, c'est de pas juste de régler le stress chez l'enfant, mais de la famille au complet.
Ben effectivement, c'est de s'arrêter puis de regarder c'est quoi les besoins de chacun, mais c'est quoi aussi nos émotions, qu'est-ce qu'on vit là-dedans, hein? Parce que oui, on parle de stress, mais derrière le stress, il y a des fois des émotions qui sont là, qui demandent à être nommées, hein? Puis comme on est dans une ère où tout est rapide, on prend pas le temps de s'arrêter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé dans la situation, hein?
Et ça fait partie de gérer le stress, si je comprends bien.
Absolument, gérer nos émotions, nommer la jalousie entre enfants, tu sais, c'est des émotions qu'on n'aime pas trop parler, mais c'est là pareil.
Donc, les nommer, ça fait du bien.
Absolument, on vient apaiser. Il y a un effet d'apaisement quand on nomme, puis quand l'enfant se sent entendu dans ce qu'il vit. Hein, plutôt que de dire t'as pas raison de pleurer. OK, qu'est-ce qui te fait pleurer? Bon, ça te fâche ou ça te fait de la peine, t'aurais aimé ça avoir ça, je comprends. Ça veut pas dire que je vais lui donner ce qu'il demande, mais je vais juste nommer ça, ça va créer un apaisement dedans de lui.
Et est-ce que l'école, finalement, est-ce que l'école, c'est un stress pour les enfants? C'est-à-dire que, je veux pas dire qu'un enfant qui resterait à la maison serait moins stressé, mais est-ce que l'école en soi, c'est un gros stress pour les enfants?
Ben, je pense pas que l'école en soi soit un gros stress. Je pense que faut que l'enfant il soit en mesure de confronter l'adversité, hein. Et ça sera pas, on peut pas le laisser dans un nid douillet tout le temps.
Toute sa vie.
Ben non, ça l'aiderait pas. Au contraire, pour affronter la vie, les obstacles de la vie, à l'école, c'est là qu'on apprend beaucoup, hein, à être confronté avec d'autres enfants. Je pense qu'il y aurait quand même matière à réfléchir sur notre enseignement, sur le système scolaire, ce qu'on transmet, parce que juste quand on pense que les ados vont partir là, tu sais, au cégep, souvent on entend beaucoup là le stress par rapport à là faut que tu choisisses tes maths fortes ou tes maths régulières. Bon,
c'est stressant
pour ton
là
avenir.
Ben, de
oui,
dire hey,
tu joues ton
avenir maintenant avec un choix de mathématiques. On peut-tu se calmer les nerfs un peu?
Exactement. Faut dédramatiser puis y aller plutôt dans si jamais tu as besoin de ces maths là. Tu referas des cours si c'est ça que tu veux, hein, mais il n'y a jamais une ligne droite qui fait qu'on peut pas revenir en arrière ou qu'on peut pas bifurquer pour prendre un autre chemin. Il y a tellement de chemins possibles. Faut dédramatiser ça. Puis c'est la même chose avec les résultats scolaires. Bon, aux examens du ministère chez les plus jeunes, ils sont pas en train de jouer leur vie là. Hein? C'est pas parce qu'il y a eu un mauvais résultat qu'ils iront pas à l'université, par exemple.
Mais si on le stresse avec ça,
Puis si on met bien de la pression, ça se peut qu'il joue. Moi, je me suis rendu compte que finalement, si on démoralise l'enfant avec l'école, puis on le dénigre, que l'estime de soi est plus important finalement que le stress d'un examen ou d'un résultat, tu sais.
Tellement, tellement. Puis il faut leur laisser aux enfants le ressentir eux-mêmes s'ils sont pas contents. Si nous, on en rajoute, on rajoute un peu de pression sur eux. Donc aussi bien les accompagner plutôt que de les moraliser au niveau des résultats.
Bien, merci beaucoup, Nathalie Parent, de ces conseils. Et je conseille vraiment le livre « Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement » aux éditions Michel Lafond. Merci, Nathalie. On va essayer de mettre en application ce qui est dans votre
livre. Merci à vous.
Merci. Cube Radio.